Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. 10 personnes ont péri hier dans un accident survenu sur la route Louboudi dans la province du Lualaba. Il s'agit d'un camion transportant des marchandises et des passagers qui a fini sa course dans un ravin. L'ivresse au volant serait la principale cause de l'accident. Lutte contre la rougeole. Plus de 530 000 enfants de moins de 5 ans vaccinés depuis le début de cette année dans le Grand Katanga par Médecins Sans Frontières. Entre-temps, Goma est en carence des produits pharmaceutiques. La ville n'est plus approvisionnée depuis plusieurs mois. En cause, la fermeture de l'aéroport depuis l'occupation de Goma par le M23. Et puis, une équipe de chirurgiens congolais a marqué l'histoire médicale du pays en réalisant avec succès une chirurgie à cœur ouvert sur un homme de 38 ans. L'opération s'est déroulée à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons l'un d'eux, docteur Cédric Moutoualé. Madame, messieurs, bonjour. Drame sur la route de Louboudi dans la province du Lualaba. 10 personnes sont mortes hier vendredi dans un accident de circulation. Un camion transportant des marchandises et des passagers a fini sa course dans un ravin. L'ivresse au volant serait la principale cause de l'accident, d'après l'administrateur du territoire de Louboudi, Jean-Paul Lacou, et joint par Jean Gandou.
Le camion provenait de Likasi, il transportait une quantité très importante de ciment. Arrivé à Ngouba, il a ajouté la marchandise et quelques passagers. À 15-18 km de Louboudi cité, il était en grande vitesse, il a dépassé un camion. En voulant dépasser le deuxième camion, il a croisé un camion de Crec 7. Et c'est devant ce camion-là, il n'a pas pu avoir d'autre choix que de se jeter dans les ravins, parce que de part et d'autre, il y avait les ravins. Présentement, où nous parlons, il y a 8 morts qui sont déjà amenés à la morgue de Louboudi et 2 corps qui sont coincés dans le décombre sous les camions en attendant qu'on cherche le moyen pour soulever les camions. Les blessés sont au nombre de 8 qui sont pris en charge médicale au niveau de Louboudi cité. Mais selon le témoignage de ceux qui étaient avec lui dans la cabine, toute la nuit il avait pris un verre de plus et c'est comme ça aux environs de 8h30, 9h qu'il a connu cet accident.
Parlons santé à présent. Plus de 530 000 enfants âgés de 2 à 59 mois ont été vaccinés contre la rougeole dans la région du Grand Katanga par Médecins Sans Frontières. C'est depuis le début de cette année. Cette ONG internationale annonce également avoir pris en charge près de 10 000 patients atteints de rougeole et soigné plus de 9 000 patients atteints de choléra à Lubumbashi. Information livrée ce samedi à Lubumbashi au cours d'un café de presse organisé par MSF. Le point avec Paulin Munanga.
Les équipes de Médecins Sans Frontières ont relevé plusieurs défis lors de ces différentes interventions afin d'arriver à ces résultats. C'est notamment l'enclavement des centaines d'aires de santé, les mauvais états des routes sur certains tronçons. Il y a aussi la méfiance de certains foyers envers le vaccin, souligne MSF. La responsable du projet MSF dans le Grand Katanga fait savoir que pour lutter contre ces épidémies, il faut continuer d'investir dans les moyens de prévention. Milena Bertou-Klein.
Par rapport à la rougeole, il faut continuer à garantir l'accès à la vaccination de routine. Une bonne couverture qui protégera tous les enfants, c'est une couverture de 95%. Donc il faut vraiment continuer à essayer de donner accès à toutes et tous, même dans les zones les plus reculées, même dans les zones les plus difficiles d'accès, aux vaccins de routine. Et ça, c'est valable pour la rougeole, c'est valable pour la polio, c'est valable pour beaucoup de maladies évitables par la vaccination.
MSF souligne que dans la lutte contre les choléras dans les Grands Katanga, une réponse transversale doit se faire à la fois avec les autorités sanitaires et celles qui sont impliquées dans les infrastructures et l'accès à l'eau ainsi que les traitements des déchets. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Par ailleurs, le secteur pharmaceutique de Goma est en crise. Les dépôts pharmaceutiques de la ville souffrent d'un problème d'approvisionnement depuis plusieurs mois. La cause principale est la fermeture de l'aéroport qui empêche les produits d'arriver depuis Kinshasa, où se trouvent la plupart des grands dépôts comme Unique Pharma, Prince Pharma et Moon Pharma. Les pharmaciens de Goma se retrouvent donc avec des rayons vides. Pour ne rien arranger, les autorités locales ont décidé d'augmenter les taxes, ce qui met les pharmaciens en grande difficulté. Beaucoup d'entre eux envisagent de fermer boutique. Plus d'explications avec vous, Grâce Amzati.
À Goma, plusieurs médicaments sont en rupture des stocks dans les pharmacies, obligeant les malades et leurs familles à faire le tour de la ville pour trouver leur traitement. Les pharmaciens eux-mêmes sont confrontés à cette pénurie. Leurs dépôts d'approvisionnement sont vides. Cette situation a un impact direct sur leurs revenus, les clients quittant les pharmacies les mains vides. Pour aggraver la situation, les autorités locales ont décidé d'augmenter drastiquement les taxes du secteur. Certaines taxes ont été multipliées par 5 ou 10, comme le permis d'ouverture qui est passé des 100 à 500 dollars américains. Le recensement annuel, facturé à moins de 10 dollars auparavant, s'élève désormais à 100 dollars et les frais annuels d'inspection sont passés de 40 à 250 dollars. Un responsable des pharmacies exprime son désarroi, soulignant qu'il est devenu impossible de générer un chiffre d'affaires suffisant pour couvrir ces nouvelles exigences dans un contexte économique déjà très difficile. Un autre pharmacien met en garde, si les efforts diplomatiques ne donnent pas rapidement des résultats concrets, de nombreuses pharmacies seront contraintes de fermer leurs portes.
Rendons-nous dans la province de Lomami. Près de 1000 personnes sont sans abri depuis jeudi dernier à Lubao. C'est à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi dernier, emportant les toitures d'une centaine de maisons de cette localité. Esther Ndalafina nous en dit plus.
Près de 1000 personnes passent la nuit à la Belle Étoile dans la localité de Lubao. La pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi dernier a causé des dégâts matériels importants, affirment les sources sur place. Les toitures de près de 140 maisons ont été emportées dans la nuit de mercredi à jeudi. 5 personnes blessées sont actuellement gardées à l'hôpital général de référence de Lubao. Un chef de famille sinistré sollicite une assistance humanitaire.
Nous étions enfermés avec les enfants dans la maison. Soudain, un vent violent a soufflé. Ma toiture a été emportée. Des briques se sont détachées du mur. Mes deux enfants ont connu des blessés graves et ils sont internés à l'hôpital. Tous les biens ont été détruits. Nous sollicitons une assistance auprès du gouvernement provincial et national.
L'administrateur de territoire a fait le dénombrement des familles sinistrées ce vendredi, mais aucune assistance n'est organisée pour venir en aide aux familles sinistrées. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Direction la province de la Tchopo. La rentrée scolaire n'est toujours pas effective dans plusieurs écoles d'Opiengé dans le territoire de Bafoua-Sindé. Nous sommes à plus ou moins 400 kilomètres à l'est de la ville de Kisangani. Plus de 80 enseignants se retrouvent présentement à Kisangani afin de rencontrer les autorités locales pour réclamer leurs droits. Depuis jeudi, ils ne cessent d'assiéger le ministère provincial de l'éducation et nouvelle citoyenneté pour réclamer leurs arriérés de salaire de plusieurs mois. Jacques Moukonkole, reportage.
Certains enseignants parmi eux totalisent 3 mois d'arriérés de salaire, d'autres jusqu'à 10 selon les milieux. Ils tiennent pour responsables de leur malheur la société des microfinances TID, investissement et développement chargée de leur paye. Selon le secrétaire de leur syndicat, Joseph Kapelemba, ils ne regagneront Opiengé qu'après avoir touché leur salaire.
Aussi le temps que gérant de la banque TID ne répond pas au plus vite possible, c'est un sacrifice non seulement pour Opiengé, ils sont pour l'intérêt de la nation tout entière.
Le salaire étant payé par voie électronique, la mauvaise qualité du réseau dans cette région serait à la base de ces désagréments, dit-on dans les milieux proches de cette société. Qu'à cela ne tienne, le ministre provincial de l'éducation, Simon Massimango, accorde un délai de 24 heures à TID afin de trouver une solution à leur revendication.
Nous avons condamné amèrement la façon dont cette banque a procédé à sa paye. Les chefs de l'État prônent la gratuité, nous sommes censés de pérenniser. Nous leur avons donné 24 heures de trouver solution pour les 222 jours sont censés d'être consommés par les matières.
Le ministre provincial de l'éducation promet de faire le suivi de cette recommandation dans le délai fixé. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Du côté du Congo central, des enseignants du primaire des écoles publiques grincent les dents. Ces professionnels de la CRE réclament 4 mois d'arriéré de la prime de gratuité auprès du gouvernement provincial. Ils l'ont clairement signifié au cours de leur assemblée générale tenue hier à l'école primaire Talambanza dans la ville de Matadi. Ces enseignants affirment que c'est depuis avril dernier qu'ils n'ont plus perçu cette prime initiée pour appuyer la gratuité de l'enseignement de base. Ils indiquent que les démarches qu'ils ont menées et les promesses faites par le gouverneur de province sont restés stériles. Écoutez le porte-parole adjoint de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC au Congo central, Isaac Lukombo, dans ses propos recueillis par Nana Plurish Mambou.
Et si aujourd'hui nous réclamons la prime ici, après 4 mois, c'est parce que nous avons d'abord voulu constater la bonne volonté de son excellence, monsieur le gouverneur, sur cette prime. Il a pris à l'autorité à ses temps de pouvoir affecter l'argent qui a été mis à sa disposition par l'Assemblée provinciale et de les donner, sinon appuyer la gratuité de l'enseignement de base. Et donc, pour nous, c'était quelque chose de salvatrice, mais il se fait que depuis le mois d'avril, sera constatée une rupture. Nous avons observé pendant 5 mois durant et nous avons mené beaucoup de démarches quant à ça. Nous avons été promis plusieurs fois par les autorités, mais ces promesses sont restées stériles. Voilà pourquoi nous demandons à son excellence, monsieur le gouverneur, de pouvoir soutenir la jeunesse par l'éducation, de bien vouloir payer les 4 mois à gérer aux enseignants de l'école primaire, des écoles publiques.
Autre nouvelle, des bandits armés ont tué 3 personnes vendredi soir à Mouenga Centre, dans la province du Sud Kivu. D'après nos sources, les victimes ont été surprises près d'un étang piscicole par des hommes armés. Les motivations de ce triple meurtre restent encore inconnues. Ce nouvel acte de violence porte à 11 le nombre des personnes tuées en l'espace de 48 heures dans cette entité. Évasion l'après-midi d'hier, vendredi, de 8 détenus, tous du quartier militaire à la prison urbaine de Boma, dans la province du Congo central. Ils ont réussi leur coup après avoir assommé le policier commis à la surveillance de la porte de la détention. Le directeur de ce centre pénitentiaire qui confirme les faits indique que ces évadés, dont nombreux sont auteurs de viols qualifiés et vols à main armée, se sont échappés à cause non seulement de la vétusté des murs de ce lieu de détention, mais également de la famine qui frappe vigilise la santé des détenus car la prison urbaine de Boma n'a pas reçu de subvention depuis le mois de mai. Parlons économie à présent. La demande en produits pétroliers dans la zone ouest de la République démocratique du Congo a connu une hausse spectaculaire, passant de 50 555 mètres cubes à plus de 85 000 mètres cubes, selon le ministère de l'économie nationale. Cette progression est attribuée aux réformes engagées dans le secteur pétrolier, notamment la lutte contre la fraude et la contrebande, la baisse des prix à la pompe et l'assainissement macroéconomique. Ces statistiques ont été communiquées hier à la suite de la visite du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, à Mwanda, dans le Congo central, à la Société congolaise des industries de raffinage, Socir en sigle. D'autres détails dans ce reportage de Blaise Makassi, rendu par Ronelly Tibonera.
La Socir est une entreprise d'économie mixte dont l'État congolais détient 50% des parts et qui joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement de produits pétroliers dans la zone ouest. Avec la baisse du litre du carburant à la pompe, Daniel Moukoko Samba veut se rassurer du bon fonctionnement et de la viabilité de l'outil principal d'approvisionnement en produits pétroliers du pays et inspecter le fonctionnement de la chaîne des transports et des distributions. Il a pour ce faire visité quelques compartiments, notamment le port pétrolier, en passant par les laboratoires d'analyse, les parcs de réservoirs pour terminer au dépôt de la Sogaz. Daniel Moukoko.
Bien, la visite d'aujourd'hui à Mwanda, c'était essentiellement pour que je me rende compte du travail que fait la Socir dans l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et des perspectives d'avenir. Le gouvernement appuie beaucoup cette société qui joue un rôle capital pour que le pays ne manque pas de produits pétroliers.
Face aux difficultés opérationnelles rencontrées par les sociétés pétrolières, le gouvernement a débloqué un fonds en faveur de la Société congolaise des industries des raffinages. Ce soutien a permis la réhabilitation de remorqueurs Kinimi et Castor et la location d'un bateau citerne pour garantir la continuité de l'approvisionnement. André Nkoté, le directeur du siège d'exploitation, a profité de l'occasion pour remercier les ministères pour son appui et accompagnement.
Actualité internationale. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, tire la sonnette d'alarme. Les ressources en eau de la planète sont de plus en plus menacées par le changement climatique, avec des conséquences majeures sur les populations et leurs moyens de subsistance. Dans un nouveau rapport publié jeudi, l'agence onusienne indique que 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en 175 ans, avec une température moyenne dépassant de 1,55 degrés Celsius, les niveaux pré-industriels. Ce réchauffement accentue les vaporisations et intensifie les précipitations, provoquant une multiplication des événements extrêmes.
L'invité.
Une équipe de chirurgiens congolais a marqué l'histoire médicale du pays en réalisant avec succès une chirurgie à cœur ouvert sur un homme de 38 ans. L'opération s'est déroulée à l'hôpital du cinquantenaire à Kinshasa. Pour en parler, nous recevons l'un d'eux, le docteur Cédric Moutoualé. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour docteur Cédric Moutoualé.
Bonjour.
Pouvez-vous nous raconter brièvement l'opération que vous avez réalisée?
Merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez. C'était une intervention assez complexe, mais qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Donc, comme je l'ai dit, c'est un jeune homme qui n'avait 38 ans à peine, donc il est très jeune, qui a reconnu un AVC sur son lieu de travail. Et c'est dans le bilan de son AVC qu'on a découvert que le problème était d'origine cardiaque. Il faut dire que 80% des AVC ont une origine cardiovasculaire. Et lui, c'était une origine cardiaque. C'est ce qu'on appelle une masse intra dans l'oreillette gauche qu'on appelle l'hémixome. Il est venu via l'intermédiaire du professeur Alphonse Nzovwama, qui est, il faut le dire, mon maître, qui a décidé de nous l'envoyer, nous le référer. Et nous, ici, nous l'avons pris en charge. Quand il est venu, le problème était d'abord neurologique parce qu'il devait recouvrir de son AVC. Donc il a d'abord bénéficié d'une préparation neurologique et surtout d'un bilan complet pour son problème cardiaque. Et on a montré qu'il n'y avait que le problème au niveau de l'oreillette gauche, c'est-à-dire de cette masse qui est friable, qui peut parfois emboliser, c'est-à-dire qui peut parfois se détacher en petits morceaux et aller se nicher, malheureusement souvent dans le cerveau. C'est assez courant. Et c'est comme ça que l'a été programmé, une fois que nous avons eu tout le matériel, et il faut d'abord le dire, tant que le matériel n'est pas disponible, ou quand il manque ne serait-ce un fil, nous ne prenons pas en charge nos malades. Donc nous prenons en charge des malades avec tout le matériel disponible sur place avant de pousser le malade au bloc opératoire. Et au bloc opératoire, c'est toute une équipe. Je ne suis pas le seul. Il y a le professeur Alphonse Nzovwama, qui est le professeur de chirurgie thoracique et l'unique professeur de chirurgie thoracique et cardiovasculaire du pays, qui travaille avec nous actuellement, qui est en déplacement. Il y a toute l'équipe d'anesthésie et réanimation, notamment le docteur Ritesh, que vraiment je tiens ici à féliciter parce qu'il a été vraiment l'homme à tout faire, la chenille ouvrière de toute cette architecture. Et ensuite, nous l'avons prise au bloc opératoire et nous l'avons branchée sous ce qu'on appelle une circulation extracorporelle.
Dites-nous docteur, c'est quoi une circulation extracorporelle?
Ça, c'est la particularité que nous avons. C'est une machine qui permet de dériver le sang du corps humain et qui fait office du cœur et des poumons le temps que nous puissions intervenir. Ce qui a été utilisé, il y a très peu de techniciens au Congo, il n'y en a quasiment pas, il faut dire la vérité. Et nous avons donc eu l'expertise d'un expert qui vient de l'Inde, un Indien, qui est très capable et très compétent en la matière, qui nous a permis de réaliser cette intervention. Nous avons retiré la masse en totalité. Aucun fragment n'a été laissé, je peux vous assurer. Nous avons refermé le cœur et le cœur est reparti comme c'était prévu. Et le patient a été sorti du bloc opératoire. Il a été extubé au bloc opératoire. Pour vous dire que l'intervention s'est bien passée, 2 heures après, il était extubé, pouvait respirer, il n'avait plus de tuyaux. Il a été acheminé aux soins intensifs. Et puis, les suites opératoires chez lui étaient très simples.
Voilà, dites-nous docteur, comment alors accompagnez-vous humainement vos patients après une telle opération?
Humainement, nous devons déjà être à l'écoute du malade. C'est le malade qui vient et qui soumet ses problèmes. Et nous, nous l'écoutons, nous lui parlons et surtout nous essayons de répondre à ses questions. Parce que vous comprenez que le patient a d'innombrables questions, la famille en a encore plus. Il faut donc trouver le moyen de parler et d'expliquer au malade. La première des choses, c'est nous instaurons un climat de confiance. Je suis disponible ici tous les jours, y compris le samedi, ce qui fait que, quel que soit le problème, le patient sait où me trouver. C'est différent des autres qui doivent chercher le médecin. Non, je suis disponible H24, ici dans cet hôpital.
Docteur, dites-nous, après une chirurgie si délicate comme ça, vous donnez combien de temps au patient pour qu'il reprenne ses activités?
Le temps de récupération est fonction du problème initial. Si vous avez un patient qui, dès le départ, est très fatigué parce qu'il a un problème cardiaque qui est grave et qui n'a pas été résolu, c'est un peu normal qu'il récupère plus difficilement. Mais chez un patient, celui-ci, en l'occurrence, est beaucoup plus jeune. C'est l'AVC qui était pour nous le vrai problème. Vous comprenez? C'est l'AVC qui l'a diminué fortement parce que, à 38 ans, devenir hémiplégique, pour info, le patient, quand je l'ai vu la première fois, ne parlait pas. On appelle ça une aphasie de Broca. C'est-à-dire que le patient peut comprendre ce qu'on lui dit. Mais à cause de l'AVC, et dans l'incapacité d'émettre le moindre son. Vous comprenez que ce n'est pas un problème cardiaque, c'est un problème neurologique.
Pour terminer, quel message aimeriez-vous faire passer au public sur la chirurgie cardiaque aujourd'hui?
Le message est simple, la chirurgie cardiaque est une réalité. Nous avons ici, dans notre hôpital, la possibilité de le faire et de la pratiquer de manière tout à fait continuelle.
Docteur Cédric Moutoualé,
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Blaise Shindani Kambala. Et par ici, prend fin à ce journal, coordonné et supervisé par Jean Gandou et Lievin Mbuinga Vubu, à la mise en onde Dieudonné Nyangasa. Merci d'avoir été des nôtres.